Honoré de Balzac, Illusion perdue. Le plan de Cérizet était d'une excessive simplicité. Quoiqu'il appartienne aux ruses dont se servent les huissiers de province pour arrêter leurs débiteurs et dont le succès est hypothétique, il devait réussir, car il reposait autant sur la connaissance des caractères de Lucien et de David que sur leurs espérances. Parmi les petites ouvrières dont il était le donjon et qu'il gouvernait en les opposant les unes aux autres, le prote décointé, pour le moment en service extraordinaire, avait distingué l'une des repasseuses de Basine Clerget, une fille presque aussi belle que Madame Séchard, appelée Henriette Mignon, et dont les parents étaient de petits vignerons vivant dans leurs biens à 2 lieues d'Angoulême, sur la route de Saintes. Les Mignons, comme tous les gens de la campagne, ne se trouvaient pas assez riches pour garder leur unique enfant avec eux, et ils l'avaient destinée à entrer en maison, c'est-à-dire à devenir femme de chambre. En province, une femme de chambre doit savoir blanchir et repasser le linge fin. La réputation de Madame Prieur, à qui Basine succédait, était telle que les Mignons y mirent leur fille en apprentissage, en y payant pension pour la nourriture et le logement. Madame Prieur appartenait à cette race de vieilles maîtresses qui, dans les provinces, se croit substituée aux parents. Elle vivait en famille avec ses apprentis. Elle les menait à l'église et les surveillait consciencieusement. Henriette Mignon, belle brune bien découplée, à l'œil hardi, à la chevelure forte et longue, était blanche comme sont blanches les filles du Midi, de la blancheur d'une fleur de magnolia. Aussi, Henriette fut-elle une des premières grisettes que visa Cérizet. Mais comme elle appartenait à d'honnêtes cultivateurs, elle ne céda que vaincue par la jalousie, par le mauvais exemple et par cette phrase séduisante « Je t'épouserai » que lui dit Cérizet une fois qu'il se vit second prote chez messieurs Cointet. En apprenant que les Mignons possédaient pour quelque 10 ou 12 000 francs de vigne et une petite maison assez logeable, le Parisien se hâta de mettre Henriette dans l'impossibilité d'être la femme d'un autre. Les amours de la belle Henriette et du petit Cérizet en étaient là, quand Petit Claud lui parla de le rendre propriétaire de l'imprimerie Séchard, en lui montrant une espèce de commandite de 20 000 francs qui devait être un licou. Cet avenir éblouit le prote. La tête lui tourna. Mademoiselle Mignon lui parut un obstacle à ses ambitions et il négligea la pauvre fille. Henriette, au désespoir, s'attacha d'autant plus au petit prote décointé qu'il semblait la vouloir quitter. En découvrant que David se cachait chez Mademoiselle Clerget, le Parisien changea d'idée à l'égard d'Henriette, mais sans changer de conduite, car il se proposait de faire servir à sa fortune l'espèce de folie qui travaille une fille quand, pour cacher son déshonneur, elle doit épouser son séducteur. Pendant la matinée du jour où Lucien devait reconquérir sa Louise, Cérizet apprit à Henriette le secret de Basine et lui dit que leur fortune et leur mariage dépendaient de la découverte de l'endroit où se cachait David. Une fois instruite, Henriette n'eut pas de peine à reconnaître que l'imprimeur ne pouvait être que dans le cabinet de toilette de Mademoiselle Clerget. Elle ne crut pas avoir fait le moindre mal en se livrant à cet espionnage. Mais Cérizet l'avait engagée déjà dans sa trahison par ce commencement de participation. Lucien dormait encore lorsque Cérizet, qui vint savoir le résultat de la soirée, écoutait dans le cabinet de Petit Claud le récit des grands petits événements qui devaient soulever Angoulême. « Lucien vous a bien écrit un petit mot, depuis son retour ?» demanda le Parisien, après avoir hoché la tête en signe de satisfaction quand Petit Claud eut fini. « Voilà le seul que j'ai, » dit l'avoué, qui tendit une lettre où Lucien avait écrit quelques lignes sur le papier à lettres dont se servait sa sœur. « Eh bien, » dit Cérizet, « 10 minutes avant le coucher du soleil, que Doublon s'embusque à la porte-palais, qu'il cache ses gendarmes et dispose son monde. Vous aurez notre homme. « Es-tu sûr de ton affaire ?» dit Petit Claud en examinant Cerizet. « Je m'adresse au hasard, » dit l'ex-gamin de Paris. « Mais c'est un fier drôle. Il n'aime pas les honnêtes gens. « Il faut réussir, » dit l'avoué d'un ton sec. « Je réussirai, » dit Cerizet. « C'est vous qui m'avez poussé dans ce tas de boue. Vous pouvez bien me donner quelques billets de banque pour m'essuyer. « Mais, monsieur, » dit le Parisien en surprenant une expression qui lui déplut sur la figure de l'avoué, « si vous m'aviez trompé, si vous ne m'achetez pas l'imprimerie sous 8 jours, eh bien, vous laisserez une jeune veuve, » dit tout bas le gamin de Paris en lançant la mort dans son regard. « Si nous écrouons David à 6 heures, soit à 9 heures chez monsieur Ganrac, et nous y ferons ton affaire. » répondit péremptoirement l'avoué. « C'est entendu. Vous serez servi, bourgeois, » dit Cérizet. Cérizet connaissait déjà l'industrie qui consiste à laver le papier et qui met aujourd'hui les intérêts du fisc en péril. Il lava les 4 lignes écrites par Lucien et les remplaça par celles-ci, en imitant l'écriture avec une perfection désolante pour l'avenir social du prote. « Mon cher David, tu peux venir sans crainte chez le préfet, ton affaire est faite. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, tu peux sortir. Je viens au-devant de toi pour t'expliquer comment tu dois te conduire avec le préfet. Ton frère, Lucien. » À midi, Lucien écrivit une lettre à David où il lui apprenait le succès de la soirée. Il lui donnait l'assurance de la protection du préfet qui, dit-il, faisait aujourd'hui même un rapport au ministre sur la découverte dont il était enthousiaste. Au moment où Marion apporta cette lettre à mademoiselle Bazine, sous prétexte de lui donner à blanchir les chemises de Lucien, Cérizet, instruit par Petit Claud de la probabilité de cette lettre, emmena mademoiselle Mignon et alla se promener avec elle sur le bord de la Charente. Il y eut sans doute un combat où l'honnêteté d'Henriette se défendit pendant longtemps, car la promenade dura 2 heures. Non seulement l'intérêt d'un enfant était en jeu, mais encore tout un avenir de bonheur, une fortune. Et ce que demandait Cérizet était une bagatelle. Il se garda bien d'ailleurs d'en dire les conséquences. Seulement, le prix exorbitant de ces bagatelles effrayait Henriette. Néanmoins, Cérizet finit par obtenir de sa maîtresse de se prêter à son stratagème. À 5 heures, Henriette dut sortir et rentrer en disant à mademoiselle Clerget que madame Séchard la demandait sur le champ. Puis, un quart d'heure après la sortie de Bazine, elle montrait, cognerait au cabinet et remettrait à David la fausse lettre de Lucien. Après, Cérizet attendait tout du hasard. Pour la première fois, depuis plus d'un an, Ève sentit se desserrer l'étreinte de fer par laquelle la nécessité la tenait. Elle eut de l'espoir, enfin. Elle aussi. Elle voulut jouir de son frère, se montrer au bras de l'homme fêté dans sa patrie, adorer des femmes, aimée de la fière comtesse du Châtelet. Elle se fit belle et se proposa de se promener à Beaulieu, après le dîner, au bras de son frère. À cette heure, tout Angoulême, au mois de septembre, se trouve à prendre le frais. « Oh, c'est la belle madame Séchard !» dirent quelques voix en voyant Ève. Je n'aurais jamais cru cela d'elle, dit une femme. Le mari se cache, la femme se montre, dit Madame Postel assez haut pour que la pauvre femme l'entendît. Oh, rentrons, j'ai eu tort, dit Ève à son frère. Quelques minutes avant le coucher du soleil, la rumeur que cause un rassemblement s'éleva de la rampe qui descend à l'Houmeau. Lucien et sa sœur, pris de curiosité, se dirigèrent de ce côté car ils entendirent quelques personnes qui venaient de l'Houmeau parlant entre elles, comme si quelque crime venait d'être commis. « C'est probablement un voleur qu'on vient d'arrêter. Il est pâle comme un mort, » dit un passant aux frères et à la sœur en les voyant courir au-devant de ce monde grossissant. Ni Lucien ni sa sœur n'eurent la moindre appréhension. Ils regardèrent les 30 et quelques enfants ou vieilles femmes, les ouvriers revenant de leur ouvrage, qui précédaient les gendarmes dont les chapeaux bordés brillaient au milieu du principal groupe. Ce groupe, suivi d'une foule d'environ 100 personnes, marchait comme un nuage d'orage. « Ah ! » dit Ève. « C'est mon mari !»« David ! » cria Lucien. « C'est sa femme !» dit la foule en s'écartant. « Qui donc t'as pu faire sortir ?» demanda Lucien. « C'est ta lettre, » répondit David, pâle et blême. « J'en étais sûr !» dit Ève, qui tomba roide évanouie. Lucien releva sa sœur, que deux personnes l'aidèrent à transporter chez elle, où Marion la coucha. Kolb s'élança pour aller chercher un médecin. À l'arrivée du docteur, Ève n'avait pas encore repris connaissance. Lucien fut alors forcé d'avouer à sa mère qu'il était la cause de l'arrestation de David, car il ne pouvait pas s'expliquer le quiproquo produit par la lettre fausse. Lucien, foudroyé par un regard de sa mère qui mit sa malédiction, monta dans sa chambre et s'y enferma. En lisant cette lettre, écrite au milieu de la nuit et interrompue de moments en moments, chacun devinera, par les phrases jetées comme une à une, toutes les agitations de Lucien. « Ma sœur bien-aimée, nous nous sommes vus tout à l'heure pour la dernière fois. Ma résolution est sans appel. Voici pourquoi. Dans beaucoup de familles, il se rencontre un être fatal qui, pour la famille, est une sorte de maladie. Je suis cet être-là pour vous. Cette observation n'est pas de moi, mais d'un homme qui a beaucoup vu le monde. Nous soupions un soir entre amis au rocher de Cancale. Entre les 1000 plaisanteries qui s'échangent alors, ce diplomate nous dit que telle jeune personne qu'on voyait avec étonnement rester fille était malade de son père. Et alors, il nous développa sa théorie sur les maladies de famille. Il nous expliqua comment, sans telle mère, telle maison eût prospéré, comment tel fils avait ruiné son père, comment tel père avait détruit l'avenir et la considération de ses enfants. Quoique soutenue en riant, cette thèse sociale fut en 10 minutes appuyée de tant d'exemples que j'en restais frappé. Cette vérité payait tous les paradoxes insensés, mais spirituellement démontrés, par lesquels les journalistes s'amusent entre eux, quand ils ne se trouvent là personne à mystifier. Eh bien, je suis l'être fatal de notre famille. Le cœur plein de tendresse, j'agis comme un ennemi. À tous vos dévouements, j'ai répondu par des mots. Quoique involontairement porté, le dernier coup est de tous le plus cruel. Pendant que je menais à Paris une vie sans dignité, pleine de plaisir et de misère, prenant la camaraderie pour l'amitié, laissant de véritables amis pour des gens qui voulaient et devaient m'exploiter, vous oubliant et ne me souvenant de vous que pour vous causer du mal, vous suiviez l'humble sentier du travail, allant péniblement, mais sûrement, à cette fortune que je tentais si follement de surprendre. Pendant que vous deveniez meilleur, moi, je mettais dans ma vie un élément funeste. Oui, j'ai des ambitions démesurées qui m'empêchent d'accepter une vie humble. J'ai des goûts, des plaisirs dont la souvenance empoisonne les jouissances qui sont à ma portée et qui m'eussent jadis satisfait. Oh, ma chère Ève, je me juge plus sévèrement que qui que ce soit, car je me condamne absolument et sans pitié pour moi-même. La lutte, à Paris, exige une force constante, et mon vouloir ne va que par accès. Ma cervelle est intermittente. L'avenir m'effraie tant que je ne veux pas de l'avenir, et le présent m'est insupportable. J'ai voulu vous revoir, j'aurais mieux fait de m'expatrier à jamais. Mais l'expatriation, sans moyen d'existence, serait une folie, et je ne l'ajouterai pas à toutes les autres. La mort me semble préférable à une vie incomplète, et, dans quelque position que je me suppose, mon excessive vanité me ferait commettre des sottises. Certains êtres sont comme des zéros, il leur faut un chiffre qui les précède, et leur néant acquiert alors une valeur décuple. Je ne puis acquérir de valeur que par un mariage avec une volonté forte, impitoyable. Madame de Bargeton était bien ma femme. J'ai manqué ma vie en n'abandonnant pas Coralie pour elle. David et toi, vous pourriez être d'excellents pilotes pour moi, mais vous n'êtes pas assez forts pour dompter ma faiblesse, qui se dérobe en quelque sorte à la domination. J'aime une vie facile, sans ennui, et, pour me débarrasser d'une contrariété, je suis d'une lâcheté qui peut me mener très loin. Je suis né prince. J'ai plus de dextérité d'esprit qu'il n'en faut pour parvenir, mais je n'en ai que pendant un moment, et le prix, dans une carrière parcourue par tant d'ambitieux, est à celui qui n'en déploie que le nécessaire et qui s'en trouve encore assez au bout de la journée. Je ferai le mal, comme je viens de le faire ici, avec les meilleures intentions du monde. Il y a des hommes chênes. Je ne suis peut-être qu'un arbuste élégant, et j'ai la prétention d'être un cèdre. Voilà mon bilan écrit. Ce désaccord entre mes moyens et mes désirs, ce défaut d'équilibre, annulera toujours mes efforts. Il y a beaucoup de ces caractères dans la classe lettrée, à cause des disproportions continuelles entre l'intelligence et le caractère, entre le vouloir et le désir. Quel serait mon destin? Je puis le voir par avance, en me souvenant de quelques vieilles gloires parisiennes que j'ai vues oublier. Au seuil de la vieillesse, je serai plus vieux que mon âge, sans fortune et sans considération. Tout mon être actuel repousse une pareille vieillesse. Je ne veux pas être un haillon social. Chère sœur, adorée autant pour tes dernières rigueurs que pour tes premières tendresses, si nous avons payé cher le plaisir que j'ai eu à te revoir, toi et David, plus tard, vous penserez peut-être que nul prix n'était trop élevé pour les dernières félicités d'un pauvre être qui vous aimait. Ne faites aucune recherche, ni de moi, ni de ma destinée. Au moins, mon esprit m'aura-t-il servi dans l'exécution de mes volontés. La résignation, mon ange, est un suicide quotidien. Moi, je n'ai de résignation que pour un jour. Je vais en profiter aujourd'hui. 2 heures. Oui, je l'ai bien résolu. Adieu donc, pour toujours, ma chère Ève. J'éprouve quelque douceur à penser que je ne vivrai plus que dans vos cœurs. Là sera ma tombe. Je n'en veux pas d'autre. Encore, adieu. C'est le dernier de ton frère, Lucien. Après avoir écrit cette lettre, Lucien descendit sans faire aucun bruit. Il la posa sur le berceau de son neveu, déposa sur le front de sa sœur endormie un dernier baiser trempé de larmes et sortit. Il éteignit son bougeoir au crépuscule et, après avoir regardé cette vieille maison une dernière fois, il ouvrit tout doucement la porte de l'allée. Mais, malgré ses précautions, il éveilla Kolb, qui couchait sur un matelas à terre dans l'atelier.
« Qui va là ?»
s'écria Kolb. « C'est moi, » dit Lucien. « Je m'en vais, Kolb. »«
Vous auriez mieux fait de ne jamais venir, » se dit Kolb à lui-même,
mais assez haut pour que Lucien l'entendît. « J'aurais bien fait de ne jamais venir au monde, » répondit Lucien. « Adieu, Kolb. Je ne t'en veux pas d'une pensée que j'ai moi-même. Tu diras à David que ma dernière aspiration aura été un regret de n'avoir pu l'embrasser. » Lorsque l'Alsacien fut debout et habillé, Lucien avait fermé la porte de la maison et il descendait vers la Charente, par la promenade de Beaulieu, mis comme s'il allait à une fête, car il s'était fait un linceul de ses habits parisiens et de son joli harnais de dandy. Frappé de l'accent et des dernières paroles de Lucien, Kolb voulut aller savoir si sa maîtresse était instruite du départ de son frère et si elle en avait reçu les adieux. Mais, en trouvant la maison plongée en un profond silence, il pensa que ce départ était sans doute convenu, et il se recoucha. On a, relativement à la gravité du sujet, écrit très peu sur le suicide. On ne l'a pas observé. Peut-être cette maladie est-elle inobservable ? Le suicide est l'effet d'un sentiment que nous nommerons, si vous voulez, l'estime de soi-même, pour ne pas le confondre avec le mot « honneur ». Le jour où l'homme se méprise, le jour où il se voit méprisé, le moment où la réalité de la vie est en désaccord avec ses espérances, il se tue et rend ainsi hommage à la société devant laquelle il ne veut pas rester déshabillé de ses vertus ou de sa splendeur. Quoi qu'on en dise, parmi les athées, il faut excepter le chrétien du suicide, les lâches seuls acceptent une vie déshonorée. Le suicide est de trois natures. Il y a d'abord le suicide qui n'est que le dernier accès d'une longue maladie et qui certes appartient à la pathologie, puis le suicide par désespoir, enfin le suicide par raisonnement. Lucien voulait se tuer par désespoir et par raisonnement, les deux suicides dont on peut revenir. Car il n'y a d'irrévocable que le suicide pathologique. Mais souvent, les trois causes se réunissent, comme chez Jean-Jacques Rousseau.